partir de l'enseignement des bases en RDC, la Banque mondiale vient de reporter à une date ultérieure le financement de 100 millions de dollars prévus en décembre après des révélations de fraude, a indiqué hier lundi 1er février cette institution financière dans un communiqué. Selon ce communiqué, la Banque mondiale travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises pour recueillir les informations sur les conclusions de l'enquête de l'Inspection générale des finances. Elle se félicite cependant de l'engagement des autorités de la RDC à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques. Que pensez-vous de la décision de la Banque mondiale? Quelles pourraient être les conséquences de cette décision sur l'éducation en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 2 février 2021. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats professeur Valérie Moussia, il est coordonnateur du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Professeur Valérie Moussia, bonsoir.
Bonsoir madame, merci beaucoup. Je corrige mon prénom, c'est Valère Moussia, non pas Valérie, merci.
Merci. Professeur Florimond Moutseba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique. Professeur Florimond Moutseba, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et le professeur Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux, comme d'habitude, à réagir au thème de ce soir sur le cas de Luc Gombo depuis Lubumbashi dans la province de Haut-Katanga. Je salue cette décision de la Banque mondiale. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans les secteurs de l'éducation. Désiré Vaile Ilunga, depuis Mbujimayi dans la province de Kasaï-Oriental, la décision prise par la Banque mondiale est juste au regard du désordre qui s'observe dans les secteurs éducationnels depuis que le président de la République a pris l'initiative de rendre effective la gratuité de l'enseignement des bases sur toute l'étendue du territoire national. Il est intolérable de voir que les prêts soient décaissés pour ce projet alors que sur terrain, ces derniers prennent d'autres destinations. La justice doit établir les responsabilités des uns et des autres. Merci de nous suivre. Mbujimayi dans la province du Kasaï-Oriental sous la 93.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La Banque mondiale reporte les décaissements des 100 millions de dollars prévus en décembre à une date ultérieure. C'est ce qu'indique un communiqué de cette institution rendu public hier lundi. La Banque mondiale confirme cependant son engagement et son soutien aux réformes de gouvernance en cours dans les secteurs de l'éducation en RDC, notamment en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de redevabilité. Explication avec vous, Blaise Makassi.
La Banque mondiale se félicite de l'engagement au plus haut niveau des autorités de la République démocratique du Congo à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques. Elle note néanmoins en particulier l'enquête menée par l'Inspection générale des finances sur le secteur de l'éducation qui a révélé des manquements, notamment des cas de fraude et de détournement des fonds publics, ainsi que des faiblesses dans des contrôles internes. Tenant compte de ces conclusions, le décaissement prévu au mois de décembre a été reporté à une date ultérieure, pendant que la Banque mondiale exerce également sa responsabilité fiduciaire, indique les communiqués. Dans l'exercice de sa responsabilité fiduciaire, en tant que financier du projet PERS, la Banque mondiale, rappelle les communiqués, travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises pour recueillir des informations supplémentaires concernant les conclusions de l'enquête de l'IGF, y compris toute proposition des mesures correctives. En 2020, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif d'une valeur de 800 millions de dollars américains échelonné sur 4 ans, rappellent les communiqués.
Merci Blaise Makassi. Réaction du CIECO au report du décaissement des 100 millions de dollars de la Banque mondiale après les révélations de l'IGF au Nord Kivu. Ce syndicat estime que la décision de la Banque mondiale ne va pas favoriser le programme du chef de l'État qui tient à la gratuité de l'enseignement en RDC. Pour son secrétaire provincial, la qualité de l'enseignement va en pâtir et du coup la charge va revenir encore aux parents. Silmou Kiafé est joint par Denise Loukesso.
Le fait qu'on puisse constater que nous sommes en train de détourner nos propres ressources, ce n'est que normal que l'étranger puisse se rétracter parce qu'il a trouvé que nous sommes moins responsables avec nos propres responsabilités. L'enseignement de qualité auquel nous attendions ne sera pas vraiment exact. C'est la gratuité qui va d'abord en souffrir, à ce sens que cet argent devait aider à accompagner les activités et le problème de la gratuité. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas encore bien décantée. Et c'est encore un problème qui s'ajoute à ce sens que tout ce dont les écoles allaient bénéficier dans le sens de la gratuité ne le sera plus. Donc, le problème de la gratuité, c'est compliqué. L'impact, c'est que ça revient encore au niveau des parents de pouvoir contribuer. En désolé, les enfants qui devaient en bénéficier n'auront pas ces moyens qui devaient venir grâce à cet argent de la banque. Donc, la gratuité vient encore de souffrir de son application.
C'était là le secrétaire provincial du CIECO Nord Kivu, professeur Valère Moussia. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif per son sigle. Ce projet appuie le programme de gratuité de l'enseignement primaire du gouvernement de la RDC et vise à alléger le fardeau des frais de scolarité des ménages, à améliorer l'accès à l'enseignement primaire dans certaines provinces et à renforcer les systèmes fondamentaux de gouvernance dans les secteurs de l'éducation. Professeur, comment avez-vous accueilli la décision de la Banque mondiale?
Écoutez, ça n'a pas été une surprise pour moi et pour l'équipe du projet, parce que c'est l'aboutissement d'un processus. Nous avons suivi, comme vous l'avez vous-même dit, les 100 millions de dollars auraient dû être débloqués au mois de décembre 2020. Nous y avons travaillé d'arrache-pied, il y avait des conditionnalités, il y avait des préalables qu'on devait remplir. Nous y avons travaillé d'arrache-pied avec tous les services, avec les services impliqués du ministère de l'EPST, mais également du ministère des Finances. Nous avons donc on les a réalisés et nous tous avons été embêtés parce que finalement les 100 millions n'ont pas été débloqués alors qu'ils étaient vraiment fortement attendus. Bon, ici, je n'ai pas à commenter la décision de la banque, je ne suis qu'un technicien. Comme vous le savez, la banque, le communiqué de la banque s'est adressé au gouvernement. Et avant cela, la banque avait adressé une lettre au ministère des Finances. Le ministère des Finances, c'est l'interlocuteur attitré de la banque dans notre pays, donc je n'ai pas ici à répondre à la place du gouvernement ni à commenter.
C'est un peu vous qui gérez ce programme, professeur Valère Moussia. Est-ce que ce n'est pas finalement votre structure qui est mise en cause?
Non, pas du tout. Notre structure n'est pas du tout mise en cause parce que nous gérons, donc notre structure est appelée à gérer le projet, à gérer les ressources qui ont été mises à disposition du gouvernement. Et donc, bon, c'est vrai, il y a une députée qui a parlé. Nous sommes intéressés par ce rapport, comme la banque, comme tout le monde, parce qu'effectivement, nous devons vraiment, nous sommes très attachés à la gouvernance du système, et comme le communiqué l'indique bien, il y a une partie de ressources qui va justement au renforcement du système, à la gouvernance du système. Bon, maintenant, notre structure n'est pas du tout mise en cause, bien au contraire. Et donc, elle n'est pas mise en cause du tout.
Professeur, ce report est dû après des révélations, des fraudes, hein, après l'enquête de l'IGF. Vous-même, vous dites que ça ne vous a pas tellement surpris parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas bien autour de la gestion des fonds.
Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. En fait, il faut distinguer des choses. Il y a le fonds du projet et il y a le fonds du gouvernement. Ici, je ne parle pas du fonds du gouvernement. Non, ça ne nous a pas surpris parce que déjà en décembre 2020, alors que nous attendions au décaissement de 100 millions, la banque, effectivement, avait clairement dit qu'elle ne pouvait pas débloquer les fonds, tout simplement parce qu'elle attendait des clarifications de la part du gouvernement sur le rapport de l'IGF. Donc nous étions déjà au courant de l'existence de ce rapport, et donc c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas été on n'a pas été du tout surpris. Voilà.
Vous pensez, professeur, que ça pourrait avoir un impact sur ce grand projet du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement des bases?
Bon, sur la gratuité, sur les activités qu'on avait prévues, oui, parce qu'on a planifié un certain nombre d'activités, mais là, il faudrait peut-être distinguer deux choses. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à plusieurs occasions, ce projet comporte deux volets. Il y a un volet d'appui budgétaire direct, dont font partie les 100 millions de dollars. Donc, c'est des ressources qui doivent être versées directement dans les comptes du trésor public. C'est 700 millions sur les 800. Et les 100 millions dont le décaissement aujourd'hui est retardé font partie de ce volet d'appui budgétaire direct. Il y a un second volet. C'est le volet du renforcement du système éducatif, qui concerne la gouvernance, etc. C'est les activités, ça c'est le volet investissement. On est de l'avant investi pour que les systèmes aillent mieux en termes de gouvernance, mais également en termes de qualité, etc. C'est 100 millions de dollars. Ce volet n'est pas du tout retardé. Ce volet, bien au contraire, il faut plutôt l'encourager parce qu'il s'agit bien de la gouvernance. La banque est tout à fait, on continue donc de travailler pour pouvoir renforcer le système à travers des réformes sur la qualité, des réformes par rapport à l'accès. Bon, bien entendu, cet épisode, cet événement, vient retarder la planification que nous avions fait au départ. Parce que il est prévu, par exemple, que nous puissions travailler au décaissement de 315 millions au mois de juin 2021. Les 100 millions qui étaient prévus pour décembre 2020 n'ayant pas été débloqué, effectivement, ça bouscule la planification. Ça bouscule la planification et là, il y a effectivement un impact. Vous savez également qu'il y a beaucoup de nouvelles unités qui attendent d'être payées et le gouvernement comptait sur ces ressources pour pouvoir payer certains d'entre elles. Donc ça, effectivement, ça pose un problème. Il est fort possible que les nouvelles unités pourraient peut-être éventuellement, si la situation traîne trop, ces nouvelles unités risquent de ne pas être payées.
Pour les enseignants qui ne sont pas payés, est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'il existe, selon le rapport de l'IGF, des listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes? Est-ce que ce n'est pas à cause de tout ça que finalement on n'arrive pas à payer tous les enseignants?
Mais ça, je ne peux pas le dire, madame. Je ne gère pas le secteur. Je ne suis que un expert. Mais c'est vrai que c'est pourquoi je dis que je n'ai pas, on n'a pas, et la banque, je pense qu'a raison de pouvoir réclamer quand même ce rapport pour qu'on voit où est-ce qu'on pose les pieds. Bon, maintenant, s'il y a des enseignants fictifs, s'il y a des écoles fictives, pas qu'il faut les condamner, mais tout simplement, il faut aller sur le terrain pour voir si cette école existe ou n'existe pas. Ça pose effectivement un problème, en sachant que les sous-secteurs de l'EPC, comme tant bien d'autres, c'est assez complexe. Et 600 millions d'enseignants, 600 000 enseignants, je ne sais pas, avec 60 000 écoles, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème.
Merci, professeur.
S'il y a des écoles fictives, je pense qu'il faut... Il faut tout faire pour pouvoir les détecter et sanctionner les responsables, ça c'est clair. Si nous voulons que la gratuité soit vraiment mise en œuvre de manière durable, il faut que le système soit renforcé, il faut que la gouvernance soit améliorée, ça c'est clair.
Professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique au DEP en sigle. Professeur Mouteba, votre lecture par rapport à cette décision de la Banque mondiale?
Ok, excusez-moi. Vous savez, pour l'ODEP, partout où il y a une mauvaise gouvernance, là où il y a des détournements, là où il y a corruption, l'ODEP condamne vraiment avec la plus grande fermeté et demande à la justice de faire son travail. Si les rapports de l'inspection des finances
Professeur, on a un souci avec votre ligne téléphonique.
Oui. Ça va mieux maintenant?
Non. Non, ça va pas mieux.
Je vous entends très bien.
Ça va mieux maintenant.
Ça va mieux, hein?
Oui.
Oui, j'ai dit ceci.
c'est l'ODEP. Quand il s'agit des questions des détournements, de la corruption, et globalement de la mauvaise gouvernance, et s'il s'avère que le rapport de l'IGF donne les preuves de ces délits, de ces crimes qui ont été commis, je pense que non seulement il faut que la justice fasse son travail, mais en même temps, nous ne pouvons pas condamner la Banque mondiale d'avoir suspendu le décaissement de ces fonds, même si cela est dommageable, hein, par rapport à la gratuité donc de l'enseignement chez nous. Parce que vous savez, globalement, la gouvernance dans notre pays ne va pas du tout. Vous savez que le dernier rapport qui a été commandé par l'Union européenne pour l'évaluation de performance des finances publiques dans notre pays, selon la méthode PEFA, tous les indicateurs sont au rouge à l'heure de fait. Tous les indicateurs sont au rouge. Cotation, la plus mauvaise toujours. D, parce qu'on compte des A à D. Et presque partout, 90% des critères pris en compte sont mal cotés. Vous savez aussi que le dernier rapport de Transparency International, dans ce rapport, la RDC est dans le peloton de 20 pays les plus corrompus au monde. Donc nous sommes à 171e place sur 180. Et donc vous comprenez que la Banque mondiale n'a fait que ce qu'elle devait faire. Et surtout, madame, que la gratuité sera vraiment perturbée, parce que je voudrais que l'opinion sache qu'en 2020, nous avons pu mobiliser 3,7 milliards de recettes publiques sur les 11 milliards prévus dans le budget. Et cette année, le budget 2021 est prévu pour un montant de 6,9 milliards. 6,9 milliards. Et donc, combien on va mobiliser réellement quand on sait que les coûts de la gratuité dépassent les 2 milliards de dollars par an, et que si maintenant on va manquer les moyens de la Banque mondiale, et qu'on n'est pas sûr de mobiliser, je dirais même 2 milliards hein, pour l'année 2021, étant donné que l'année 2020 sera une année fiscale désastreuse pour les entreprises qui n'ont pas travaillé. Et donc nous ne pouvons pas nous attendre même à atteindre les 3 milliards, 700 millions qu'on a eu cette année. Et donc la gratuité, compte tenu du coût de la gratuité, et du fait que la Banque mondiale ne va pas faire le décaissement qui était promis, je pense que vraiment on va avoir beaucoup de problèmes. On va avoir beaucoup de problèmes. Et c'est une leçon pour nous tous, pour les dirigeants, etc., d'essayer d'améliorer tant soit peu la gouvernance dans notre pays.
Professeur Mouteba, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce que vous dénoncez, la mauvaise gouvernance? Est-ce un problème d'hommes ou de système?
Et le système et les hommes. Parce que nous avons vu, notre mémoire nous rappelle les procès des 100 jours, madame. C'était à la fois le non-respect des lois et à la fois les hommes qui agissaient. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était un programme de 500 millions de dollars. On a pu juger et condamner les gens sur la base de 58 millions. Il reste encore à faire par rapport à la gestion de ces fonds. Et donc, vous voyez, c'est un problème à la fois du système et des hommes. C'est à la fois un problème de culture. C'est-à-dire que nous baignons depuis quelques années dans la culture de la corruption, des détournements. Et il y a comme une sorte de consensus au sein de l'élite, une sorte de consensus de la corruption. C'est-à-dire qu'on tolère la corruption. On accepte la corruption pourvu qu'on ait les résultats qu'on veut. Et donc, il faut combattre cette culture. Il faut mettre fin à cette culture parce que c'est cela qui encourage tous ceux qui peuvent détourner. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas revenir sur tous les constats que nous avons ces derniers temps par rapport à la culture de la corruption dans le pays. Vous savez, comment va-t-on encourager les régies financières, ces jeunes gens qui sont agents dans les régies financières, à mobiliser des recettes comme il se doit lorsque la culture de la corruption s'est installée depuis longtemps?
on dirait un consensus au sein de l'élite politique et même l'élite intellectuelle semble tolérer cela. Et la population n'en parle pas. Mais si on est là-dedans, madame, eh bien, ce qui s'est passé à l'EPSP, au ministère, croyez-moi, si on veut faire aujourd'hui l'audit des ministres sortants, et Ilunga Kamba, à chaque ministère, madame, on va y découvrir bien des choses. Et d'ailleurs, je le recommande vraiment. Avant qu'il y ait changement de gouvernement, qu'il y ait remise et reprise entre Ilunga, son gouvernement et les autres, vraiment que la Cour des comptes et l'instruction générale passent par tous ces ministères-là, vous allez entendre des choses. Ça sera pareil que ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, vraiment, nous sommes dans une situation difficile où si nous ne faisons pas d'efforts, l'année prochaine, par exemple, eh bien, l'administration, l'armée, la police, l'éducation nationale, on va manquer les moyens pour pouvoir fonctionner. Et ça, vraiment, ça va être très compliqué pour le pays.
Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur Mouaka, que pensez-vous de cette décision de la Banque mondiale qui a décidé de reporter à une date ultérieure les financements des 100 millions de dollars prévus en décembre après des révélations des fraudes?
Très mauvaise nouvelle pour la République, une très mauvaise nouvelle pour les parents, les enseignants et la nation entière qui était en train d'attendre que la gratuité, avec tous ces problèmes qui sont déjà ressentis, puisse s'améliorer. Tout le monde souhaite dans la République que la Constitution soit respectée à son article qui précise que l'enseignement au niveau primaire doit être gratuit. Et donc, c'est regrettable que le plus souvent, beaucoup de projets échouent tout simplement puisqu'on manque de financement. Le but est souvent insuffisant ou même s'il y a de moyens, on privilégie autre chose. Mais là, on est dans un secteur où l'argent entre. Et malheureusement, l'argent entre et la gouvernance ne marche pas. Et donc, c'est déplorable et le souhait, c'est que vraiment ça puisse marcher puisque non seulement notre système d'enseignement est ballotté actuellement par tous les confinements que nous connaissons, mais si on doit y ajouter des non-paiements, rassurez-vous qu'il y aura une succession de grèves qui vont davantage faire mal. Et il n'y a pas meilleur moyen de tuer une nation que de la saccager au niveau de l'éducation de base. Et donc si nos enfants ne suivent pas une bonne formation, donc rassurez-vous que ce sera fini pour la République démocratique du Congo. Ce qui fait que pour moi c'est une très mauvaise nouvelle et je pense que les dirigeants doivent y mettre le plus grand sérieux. Parce que tout ce que nous savons, c'est que généralement tous les dossiers, la plupart des dossiers de détournement ne sont pas suivis de remboursement. Les gens ne remettent pas l'argent et même quand on établit des responsabilités et parfois il y a des condamnations, d'une manière spectaculaire, on constate que les gens sortent de la prison comme s'ils n'ont rien fait et on n'apprend même pas que l'argent est remis. Et donc, je pense que c'est une pression supplémentaire que la banque voudrait mettre sur notre gouvernement pour que ce qui est dit comme intention dans la gouvernance puisse se matérialiser, c'est-à-dire qu'on déboulonne les systèmes de corruption qui s'est incrusté dans les systèmes de gestion à la fois politique, financière dans cette République. Et donc, je ne peux qu'encourager les gouvernants à pouvoir être sérieux, être cohérents avec ce qu'ils avancent comme intention. Et par conséquent, on ne peut pas s'étonner que l'opinion publique s'en empare dans les réseaux sociaux. On ne peut pas s'étonner, nous sommes en démocratie. Et donc, il va falloir plutôt que le gouvernement communique clairement sur ces dossiers et que l'on dise à la nation ce qui ne va pas et où est-ce qu'on veut aller avec ce dossier, plutôt que de subir la pression au niveau où on ne peut pas la subir, c'est-à-dire interrompre que de nouveaux enseignants soient payés. C'est vraiment tuer la nation.
Professeur, il y a cet auditeur, Josué Hassani, qui ne salue pas la décision de la Banque mondiale, car il estime que c'est incohérent d'encourager les autorités congolaises à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques, mais en même temps avoir une réticence de décaisser le montant pour financer la gratuité de l'enseignement. À mon avis, vu l'impossibilité financière que connaît la RDC, la Banque mondiale devrait décaisser dans l'extrême urgence cette somme pour permettre une rentrée scolaire harmonieuse, pour éviter que les enseignants aillent en grève alors que le calendrier scolaire est déjà perturbé.
Oui, je partage son opinion. Et donc, tout patriote congolais doit réfléchir comme lui. Il souhaitait que la Banque mondiale puisse libérer de l'argent et que l'éducation ne puisse pas subir un coup. Et donc, c'est une réflexion patriotique. Mais je crois que le plus intéressant, c'est au niveau de l'opinion publique. Nous devons faire pression sur ceux qui ont le pouvoir de gestion dans ces dossiers pour que la lumière soit vite donnée, que les responsabilités soient établies et que l'argent soit remboursé. Le plus dur, c'est ça, dans cette République. Les gens détournent, on les chasse du boulot, on les amène à Makala quelques jours et après, ils vous reviennent. Et donc, c'est quand même étonnant. C'est aberrant, c'est inacceptable. Et donc, je pense qu'au même moment que nous souhaitons que la banque puisse reconsidérer sa décision, mais au même moment, nous demandons à notre gouvernement de nous montrer qu'il peut être sérieux dans des dossiers comme ceux-là.
Merci, professeur. Ils sont nombreux, les auditeurs, à envoyer leurs réactions. On va en prendre quelques-unes. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kananga. Pour vous, professeur Valère Moussia.
Jean-Philippe Verly-Loufouabo, à partir de Kananga. Le premier facteur qui a favorisé le détournement des fonds dans ce secteur de l'EPSV, c'était d'abord la création des zones salariales, des trois zones salariales, pour ne pas connaître les montants réels dont on paye à un enseignant mensuellement. Ensuite, la multiplicité des fonds arrêtés vendus pour étouffer et saboter la gratuité par l'encombrement des écoles qui passent et qui poussent comme des champignons depuis que l'avènement de M. Félix Tshisekedi, le président de la République. Enfin, l'augmentation des structures et effectifs fictifs des gens et prestataires dans ce secteur.
Brève réaction, professeur Moussia.
Oui, mais là, il s'agit de la gestion du secteur. Soit je suis dans la gestion du projet.
Oui, vous êtes quand même expert. Vous pouvez donner un point de vue.
La question, mais il ne me revient pas d'y répondre. Parce que je crois que c'est les écoles sont créées par arrêté du ministre. Et donc, il revient effectivement au ministre de pouvoir répondre à cette question. Mais donc, pour qu'il se prononce sur la pertinence des écoles qui ont été créées, parce qu'il n'y a pas que les écoles, il y a également des structures des écoles qui ont été modifiées. Et là, je pense qu'il devrait dire en quoi cela a été pertinent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que d'un côté, ici je ne parle pas des écoles fictives, hein, c'est la même, mais je parle simplement de la modification de structures d'écoles ou de la création de nouvelles écoles. Il faut faire attention parce que on est face à la gratuité. Lorsque le chef de l'État a proclamé la gratuité, il faut noter que nous avons fait une enquête, il y a eu un engouement, il y a eu un afflux massif d'élèves où tout de suite on s'est rendu compte qu'effectivement les écoles telles qu'elles étaient structurées, il y avait débordement. Et je pense que s'il y a eu création de nouvelles classes ou de nouvelles écoles, ça doit à mon avis répondre à cet afflux. Bon, maintenant, il faut vérifier. Je pense que c'est ça. C'est ça. Mais sinon, je ne peux pas me prononcer sur la gestion du secteur. Ce n'est pas qui, c'est pas moi qui gère. Je suppose que les écoles sont créées à la demande des gens qui sont sur le terrain, à la demande parfois peut-être de certains élus qui estiment que peut-être là. Donc là, je ne peux pas répondre à ces questions. Voilà.
Professeur Florimond Moutéba, on va aussi prendre cette réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
C'est Gratia Bakaji, père depuis la ville de Kisangani. Moi, je pense que la décision de la Banque mondiale aura de la répercussion sur la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays parce que notre gouvernement n'avait pas prévu un budget suffisant pour la gratuité de cet enseignement. Mais c'est une honte pour notre administration interne qui est mal reconnue au monde pour le détournement des dernières publiques. Je crois que cette décision doit interpeller la conscience de nos autorités et ces dernières doivent assumer toute conséquence sur la vie éducationnelle de nos enfants.
Il vous rejoint dans votre analyse tout à l'heure, professeur Mouteba, cet auditeur de Kisangani.
Je confirme cette analyse et je pense que au niveau, je rejoins l'autre intervenant tout à l'heure qui était en train de fustiger non seulement cette culture de détournement, des coulages de recettes et cette culture de la corruption, et nous souhaitons que l'exemple vienne d'en haut. Nous souhaitons que vraiment, que lorsqu'on punit, lorsqu'on envoie devant la justice des gens qui ont commis ce genre de crimes contre notre nation, et parce que l'argent, vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, on ne fera rien si on n'arrive pas à mobiliser assez de moyens pour pouvoir faire face à nos ambitions. Que ce soit dans le secteur de l'éducation primaire, secondaire, universitaire, et que ce soit dans le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'infrastructure, dans tous ces secteurs très importants pour le développement de notre pays. Mais il faut qu'il y ait une grande sévérité en ce qui concerne les sanctions qu'il faut prendre contre tous ces malfaiteurs, pour que les autres puissent avoir peur. Parce que vous savez ce qui s'est passé dernièrement. Le procès de 100 jours, il est arrivé, pourquoi? Parce qu'il y a eu un rapport de l'ODEP sur le programme de gestion du programme de 100 jours. Et nous sommes encore plus blessés parce que nous ne comprenons pas que des personnes qui ont été condamnées pour avoir détourné des fonds publics sont libérées quelques mois après, 5-6 mois après, sans qu'ils aient fait même la moitié de leur peine. Et ça, c'est un mauvais exemple donné. C'est pour dire, par exemple, aux agents de la DGI, de la DGRA, de la DGPA, allez-y, détournez, faites ce que vous voulez. Vous irez en prison et 5 mois après, on va vous libérer. Et c'est la même chose pour tous ceux qui gèrent l'argent public dans les entreprises publiques. Vous avez entendu parler du cas de Transco, par exemple. Et bien, tous ces gens qui gèrent les entreprises publiques, à l'Exonapta, à la Sonas, etc., c'est ça qu'on leur lance comme message, quoi.
Professeur Mouteba, quelles pourraient être, selon vous, les conséquences de cette décision sous l'éducation en RDC ou dans les secteurs de l'éducation en RDC?
Catastrophique. La gratuité va prendre un coup. Et c'est vrai, comme disait l'autre intervenant tout à l'heure, nous qui sommes des patriotes, ça fait très mal. Ça fait très mal que, à cause de la mauvaise gouvernance de certains, nos enfants vont souffrir. Nos enfants ne pourront pas avoir. Mais vous savez, on dit, quand vous tuez l'éducation, vous tuez un pays, vous tuez une nation. Vous tuez l'éducation, vous tuez une nation. Parce que c'est là où les enfants ont forgé la conscience du citoyen de demain pour pouvoir prendre en main et en charge le développement du pays. Et donc, je suis triste. Je suis vraiment triste. Parce que, à cause de la mauvaise gouvernance ambiante, à l'UPSP, on a mal géré, on a détourné l'argent, et la Banque mondiale va encore nous en priver. Alors vous comprenez, madame, c'est vraiment désastreux.
Merci, professeur Arsène Mouaka. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Thomas Emmanuel Nkashama, à Kinshasa, dans la commune de Selembao. La réticence de la Banque mondiale est d'autant plus raisonnable que l'on ne peut pas continuer à financer les pays pour les intérêts partisans de ces insatiables politiciens. Il est temps que la justice se saisisse de l'affaire pour que les coupables puissent répondre de leurs actes d'une part et pour que la RDC regagne la confiance de la Banque mondiale d'autre part. C'est le seul moyen pour sauver la gratuité de l'enseignement de base dans notre pays. Car après tout, le pays ne peut pas être à court de finances à cause de ces détourneurs impunis. Merci Radio Okapi.
Brève réaction, professeur Arsène Mouaka.
Oui, le souhait c'est la justice, mais comme nous tous nous sommes en train de répéter le mot, le financier c'est une banque, et une banque ne fait pas des dons, une banque fait des dettes aux gens, et donc c'est nous les contribuables qui allons payer, et en réalité cet argent nous appartient à nous, puisque c'est nous qui payerons ces dettes-là. Et donc on ne peut pas s'amuser justement avec l'argent des contribuables congolais. Et je suis convaincu que si la Banque mondiale a dû carrément arrêter le processus en utilisant des mots comme retardement des délibérations d'argent, je suis convaincu que c'est juste pour faire pression sur le premier citoyen congolais qui a gracié récemment des présumés détourneurs ou je ne sais pas détourneurs confirmés par le tribunal. Et c'est juste pour dire que ça ne se passera pas comme ça et qu'au-dessus de lui, il peut y avoir la main qui donne, qui peut aider les Congolais à exprimer mécontentement. Et donc, c'est ce mécontentement-là qu'on exprime. Malheureusement, c'est le même individu, en fait, qui est le premier citoyen, qui agit comme magistrat suprême en même temps. Et donc, tous les défis se concentrent autour d'une institution, le président de la République, et s'il peut nous suivre à ce moment, c'est juste pour lui demander de sauver l'éducation, et qu'on a déjà tué beaucoup de secteurs de la nation congolaise, qu'on ne devait pas sacrifier l'avenir de nos enfants.
On va prendre cette autre série des réactions des auditeurs. Rufin Sadiki, VK, dit ceci: je pense que la Banque mondiale a totalement raison du fait qu'il faut d'abord s'assurer de la bonne gestion de la part des autorités congolaises avec tous ces détournements au niveau du ministère de l'Enseignement, ce qui expliquerait la non-effectivité de la gratuité scolaire. Donc personne ne connaît le nombre exact des écoles et enseignants en RDC. Voilà ce qui doit être clarifié avant que le fonds ne soit libéré par la Banque mondiale. Je soutiens l'avis. Maître Claude Kiaunga, depuis Bukavu, Sud Kivu, la corruption est devenue la règle en RDC. La Banque mondiale a bien fait de suspendre son financement suite au prétendu détournement découvert dans les chefs de certains dignitaires du régime en place. Une autre chose, avec toutes les potentialités que la RDC regorge, comment expliquer que nous devons fonder notre développement sur des aides? Soyons responsables et voir comment utiliser nos propres moyens. Rémi Lokonga, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. La décision de la Banque mondiale est, à mon avis, salvatrice, car le secteur de l'enseignement est gangréné actuellement par des multiples détournements des fonds alloués à la gratuité, avec la création de plusieurs écoles fictives et une augmentation intempestive des nouvelles unités. À ce stade, il serait indispensable que les autorités congolaises puissent d'abord assainir le secteur éducatif en traquant tous les malfrats et les traduire en justice afin de permettre à la Banque mondiale de revenir sur cette décision, et ce, à travers le gouvernement de l'Union sacrée qui bientôt sera mis en place. Paul Didas Bundu, je pense que c'est la raison principale pour laquelle les enfants restent à la maison. Malheureusement, on se cache derrière Covid-19. Enfin, Adonis Damrich dit ceci: à ce que je sache, la Banque mondiale avait pris cette décision de bonne foi pour appuyer la gratuité de l'enseignement en RDC et du coup, pour des simples présomptions de détournement pour lesquelles personne n'est jusque-là inculpé, elle se décide de suspendre unilatéralement ses bonnes intentions. Les lobbyistes congolais ont du pain sur la planche, car pour moi, cette décision est un arbre qui cache une forêt dense. Pourquoi ne pas lier cette réticence aux turbulences politiques actuelles dans notre pays? Alors pour conclure, professeur Arsène Mouaka, comment améliorer la bonne gouvernance en RDC?
C'est élémentaire. Je crois que nous allons d'abord compter sur la qualité des hommes, des individus qui gèrent, puisque les institutions sont déjà faibles. Et donc, nous demanderons au président de la République de demeurer un modèle et d'être ferme à l'endroit des détourneurs, et qu'il puisse nous aider, comme il utilise le mot de déboulonnement, qu'il nous aide à déboulonner autant qu'il veut déboulonner la dictature, qu'il déboulonne aussi les systèmes de corruption, et que la transparence puisse régner, et qu'on puisse mettre les hommes qu'il faut à leur place, et rappeler en même temps qu'une réforme a des préalables. Et donc, quand on veut amener la gratuité, il est important qu'on soit en mesure de faire ce qui est élémentaire, c'est juste le ressassement des écoles, le ressassement des enseignants qui doivent bénéficier de l'argent qui sera amené par le gouvernement pour matérialiser la gratuité. Donc, il y a ce qui est élémentaire qui a été sauté. On est entré brutalement dans la gratuité, qui était pourtant un processus. Je suis un ancien député, depuis bien longtemps, chaque année, il y avait de nouveaux enseignants pour préparer la gratuité. Et malheureusement, on y est entré brutalement, sans même avoir recensé les enseignants, les écoles, et voilà les conséquences.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Professeur Valère Moussia, ça sera aussi votre conclusion Pensez-vous que la Banque mondiale pourrait lever très rapidement cette décision?
Oui, la Banque mondiale va lever certainement cette décision, mais cela dépendra plus du gouvernement. Il faut que le gouvernement apporte les clarifications qui sont demandées par la Banque. Mais ce que je voulais ajouter à la fin pour conclure, c'est que dans le projet, il est prévu des activités très très importantes et qui sont essentielles, c'est la rationalisation du système. Il faut dire que bon, le projet a pris le projet, je vous disais, il y a d'un côté l'appui budgétaire, mais de l'autre, le renforcement du système. Et dans le renforcement du système, il est prévu qu'on rationalise, qu'on fasse un recensement des écoles, qu'on identifie biométriquement les enseignants et qu'on aboutisse à l'établissement d'une carte scolaire pour qu'on sache où est-ce qu'on a besoin de construire une école, où est-ce qu'on a besoin effectivement de modifier la structure d'une école pour qu'on y ajoute de nouvelles classes pour faire face à ceci ou à cela. Donc c'est dans le programme, c'est dans les pipelines. Donc la banque va appuyer le gouvernement dans la rationalisation de son système éducatif. Ça passera par le recensement, mais ça passera également par l'identification biométrique de tous les enseignants. Comme ça, on y mettra fin une fois pour toutes.
Merci, voilà. Professeur Valère Moussia. Professeur Florimond Moutieba, votre conclusion.
Moi, c'est deux choses. D'abord, il faut réhabiliter les contrôles. Réhabiliter la Cour des comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc mettre en œuvre la loi organique qui a été promulguée par Joseph Kabila en décembre ou novembre 2018 et qui dort toujours parce que, vous savez, la Cour des comptes, c'est l'inspection supérieure des contrôles dans notre pays. Il faut la réhabiliter. Il faut donner plus de moyens à l'inspection générale des finances. Hein, parce que on apprend parfois que, dès l'année dernière, ils n'ont eu que 12 000 dollars des frais de fonctionnement. Donc donner davantage de moyens à l'inspection générale des finances. Et aussi, soutenir les contrôles internes, les contrôleurs budgétaires, les inspections. Moi, j'insiste sur les contrôles parlementaires. Donc, j'insiste sur les contrôles. Parce que quand il y a contrôle, les détourneurs, les candidats détourneurs ont peur. Et à partir de ce moment, on va réduire les niveaux des détournements et des corruptions. Deuxième chose.
Rapidement, professeur.
C'est la dernière intervention. Que le président de la République reste un exemple et un modèle. Parce que lorsqu'il gracie, comme disait notre ami tout à l'heure, des criminels qui n'ont pas fait leur peine, il donne un encouragement aux détourneurs et en ce moment-là, il encourage la culture de la corruption.
Merci, professeur Florimond Moutieba. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Matédona Madimba, merci. À Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.